Soif d'autre chose.
Soif d'autre chose.
Une émission présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse.
19h sur Radio Présence, bienvenue, nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour cette première soirée de la semaine et pour vous accompagner comme chaque lundi en direct. Louis-Marie Gabriel, bonjour Louis-Marie.
Bonsoir Enzo, bonsoir à tous.
Alors au sommaire de l'émission Louis-Marie. Alors parce que vous voyez pas bien sûr, c'est que Louis-Marie a pris des lunettes de soleil et s'est pris pour Maverick dans Top Gun.
Bah écoutez, c'est lundi et puis le soleil est revenu, je suis en forme, c'est voilà. Un bon début de semaine. On était sur programme ?
Oui, on est toujours sur
c'est
le programme.
C'est ça, toujours programme. Et bien comme chaque lundi, des chroniques, de la musique et c'est aussi la rediffusion ce soir d'un entretien qu'on a fait en début de saison avec le frère Maxime Arcelin. Et
sur le rapport entre les chrétiens et l'argent.
Oui, et le travail aussi.
Et le travail aussi, c'est très important. Et pour tes deux chroniques, Louis-Marie, on parlera de quoi ?
Alors la première chronique portera sur les rogations. On verra que c'est une tradition qui est intéressante et qui est particulièrement d'actualité. Et plus tard en fin d'émission, je vous parlerai d'une figure intéressante, celle de Monseigneur Vladimir Gika, qui est un bienheureux qui fait un lien entre l'Église d'Occident et d'Orient. On verra ça tout à l'heure, c'est très intéressant.
Voilà, un programme chargé. Soif d'autre chose, c'est parti. Et pour commencer cette émission, un peu de musique, c'est France Gall sur Radio Présence avec Poupée de cire, Poupée de son. On se retrouve juste après pour la chronique de Louis-Marie sur les rogations.
Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleure, suis-je pire qu'une poupée de salon? Chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisé en mille éclats de voix. Autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons. Poupées de cire, poupées de son, elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. Là on n'est pas dans les chansons, poupées de cire, poupées de son. Chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisé en mille éclats de voix. Sale parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je suis qu'une poupée de cire, qu'une poupée de son. Soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire, poupée de son.
France Gall sur Radio Présence pour démarrer ce début de soirée ensemble. Et nous donnons la parole maintenant à Louis-Marie. Louis-Marie qui va nous parler des rogations.
Exactement, donc comme je disais, un sujet d'actualité, et vous verrez pourquoi. Et donc dans l'Église, il y a des traditions qui dorment dans la mémoire, à mi-chemin entre l'oubli et la nostalgie, et les rogations en font partie. Peut-être vous avez déjà vaguement entendu ce mot de la bouche d'un de vos aînés, pensant qu'il s'agissait d'une coutume oubliée. Et pourtant, se cache derrière les rogations quelque chose d'étonnant, et d'actuel aussi, une façon de se tenir debout dans le monde, en reconnaissant qu'on n'en est pas le maître.
Mais alors les rogations, qu'est-ce que c'est ?
Le mot vient du latin « rogare », qui signifie « demander » et « supplier ». Ce sont des processions pénitentielles et priantes qui se déroulent traditionnellement dans les trois jours qui précèdent l'Ascension, donc c'est tout à fait d'actualité. Et là où elles ont encore lieu, les fidèles sortent des églises, ils traversent les champs, les vignes, les chemins de terre, le prêtre en tête de procession, la croix dressée, les voix s'élèvent en litanie, on bénit la terre, on demande à Dieu de protéger les récoltes, de les faire fructifier, on marche ensemble dans la création. C'est une tradition ancienne attestée dès le 5e siècle en Gaule, instaurée par Saint Mamère, à l'époque évêque de Vienne. Après que des catastrophes naturelles eurent frappé sa région, l'Église a longtemps inscrit ces trois jours dans son calendrier comme une école du regard, apprendre à voir la terre non pas comme une ressource à exploiter, mais comme un don à habiter avec gratitude. Et ce regard, les psaumes le chantent depuis des millénaires. Le psaume 19, par exemple, nous dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu, le firmament proclame l'œuvre de ses mains. » Ou encore le psaume 104, qui est une grande éloge, une grande hymne cosmique qui décrit Dieu vêtu de lumière comme d'un manteau, qui pose les fondations de la terre, fait soudre les sources dans les vallées, qui donne l'herbe au bétail et le pain à l'homme. Dans les psaumes, la création n'est pas un décor, elle est une parole. Chaque averse, chaque épi de blé, chaque vol d'oiseau dit quelque chose de celui qui les a voulus. Et l'être humain au milieu de tout cela est invité non pas à régner en despote, mais à chanter, à répondre à cette beauté par la louange, rendre au Créateur pour la beauté de la création. C'est exactement ce que faisaient ceux qui marchent en procession dans l'irrogation, et qui le font toujours à certains endroits. Ils ne conjurent pas les esprits, ils prient Dieu, le Dieu Créateur, et ils disent « Nous demandons de toi, et nous... » Non, pardon, ils disent « Nous dépendons de toi, et nous le savons. » Alors ce lien avec l'ascension, les trois jours qui précèdent l'ascension, ce n'est pas un hasard. L'ascension, c'est le moment où le Christ ressuscité rejoint le Père, il monte, nous dit l'Évangile, et une nuée le dérobe au regard des apôtres. C'est un mystère qui pourrait sembler une absence, et pourtant l'Église y est quelque chose de bouleversant. En montant au ciel, le Christ n'abandonne pas la terre, il l'emporte avec lui, il prend notre humanité, notre chair, notre monde, et il les introduit dans la vie même de Dieu. Alors les rogations prennent tout leur sens. Avant cette grande fête de l'élévation, l'Église s'agenouille, elle marche sur la terre les yeux ouverts, elle dit « Cette terre-là, ses champs, ses saisons, ses corps fatigués, tout cela a de la valeur aux yeux de Dieu, et tout cela est digne d'être porté jusqu'à lui. » Les rogations sont comme un geste de remise entre les mains du Seigneur, en disant « Voilà, Seigneur, ce que nous sommes, voilà ce que tu nous as confié, prends soin de tout cela et de nous-mêmes. » Et dans un monde où l'on parle beaucoup du rapport à la nature, de l'écologie, de sobriété et de sens du commun, les rogations ont peut-être quelque chose à nous redonner. Pas la nostalgie d'un monde rural disparu, mais cette posture intérieure, marcher lentement, regarder la terre et trouver dans la création non pas une marchandise, mais une maison et au-dessus d'elle, un père.
Merci beaucoup Louis-Marie, et si vous nous écoutez du côté du Lot, sachez que la paroisse de Figeac organise le jeudi 14 mai, donc ce jeudi jour de l'Ascension, en l'église d'Acier à 11h, la messe justement des rogations, suivie d'un repas tiré du sac. Tout de suite, pour rester dans le thème des rogations de la nature et du rural, le Berger d'Or sur Radio Présence, on se retrouve juste après avec le frère Maxime.
Montrer comment
19h10 sur Radio Présence, tout de suite l'entretien avec le frère Maxime Ancelin, qui lui, contrairement à nous deux, qui n'était pas au festival des bandas de...
Non, frère Maxime n'était pas au mandat de Condon, on peut confirmer, il n'était pas là.
Il n'était pas là.
Voilà, il nous a manqué. Enfin, on n'était pas là non plus. Hein.
On n'était pas là non plus, mais il a manqué au festival à Condon, effectivement. Tout de suite, la rediffusion de cet entretien.
Et gros bisous au Gers.
Pour l'invité du soir, pour le grand interview du soir, nous retrouvons le frère Maxime Ancelin, dominicain pour la province de Toulouse, qui va nous parler aujourd'hui de travail, d'argent et du rapport qui a tout ça avec le christianisme dans le cadre d'une conférence qui sera organisée le 4 décembre à l'Institut catholique de Toulouse.
Oui, alors déjà parce que je dois remercier Radio Présence de m'avoir fait venir justement le 29 septembre pour l'émission et en même temps de nous avoir laissé sur notre faim, peut-être d'avoir laissé les auditeurs sur leur faim parce que le sujet était très vaste, qu'avec Philippe on a eu une excellente conversation oui. Sur, à partir de l'éclairage qu'il avait, lui comme conseiller patrimonial.
C'était vraiment super, vraiment c'était trop bien, c'était une demi-heure,
une demi-heure
bien remplie, on avait bien ri. Et c'était génial, vraiment. Mais avec... c'est vrai qu'on était restés sur la fin.
Oui, avec le... deux hommes de foi, hein, parce que Philippe, dans son métier, est à la fois tout à fait concentré sur l'argent et en même temps, il essaye de le vivre dans la foi. Il venait de faire le parcours Zachée, qui est ce parcours de doctrine sociale de l'Église, très populaire, qui permet de, justement à tous ceux qui veulent savoir ce que dit l'enseignement de l'Église sur le rapport au travail, à la manière de gagner de l'argent. Et donc, ça lui donne un éclairage, comment dans la foi savoir cultiver ses dons, les faire grandir, et puis ensuite, avec l'argent qu'on a gagné, que faire ?
Yeah. Oui, par rapport à ça, avec l'argent qu'on a gagné, on avait parlé la dernière fois de Philippe nous parlait de l'argent qu'on gagne et au mérite. Voilà, les gens qui travaillent gagnent de l'argent et ils méritent un salaire, oui. Ils méritent le juste salaire. On parlait de ça et ça fait aussi lien avec la conférence qui, en plus de la foi et de l'argent, ajoute l'aspect du travail.
Tout à fait.
Et par rapport à ça, au juste salaire, est-ce que quelqu'un qui gagne des millions d'euros parce qu'il est PDG, chef d'entreprise, etc., est-ce que le juste salaire peut atteindre des sommes faramineuses telles que des millions d'euros ? Et voilà.
Hélas, il faudrait avoir Philippe ou l'autre, le troisième intervenant que j'ai invité qui s'appelle Hugo Faure, qui est acheteur pour une boîte qui négocie donc des contrats assez importants. Et parce que c'est sans doute eux qui peuvent plus répondre à cette question. Moi, c'est un domaine très lointain, du moins. Je ne gagne aucun salaire. Je suis mendiant. Je demande mon argent à ceux qui en ont gagné. Et la réponse théorique, hélas, parfois peut planer un peu trop loin de la réalité des gens. Même si c'est sûr que ça pose beaucoup de questions d'avoir. Mais quelqu'un qui a une grosse entreprise, il a souvent de grandes responsabilités, notamment. Il n'est pas arrivé là. Alors, certains sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche, c'est-à-dire qu'ils ont récupéré l'entreprise de papa ou maman.
Oui.
Et donc, en effet, là, ça se pose la question, surtout s'il n'y a pas les compétences derrière. Mais pour beaucoup, même dans ces héritiers, d'ailleurs, il y a une forme de compétence qu'ils ont acquise parce qu'on les a préparés à récupérer une entreprise. Sinon, les autres, ils ont construit leur business petit à petit. Ils ont pris des risques et ils assument de donner du travail à 5, 10, 20, 100, des milliers de personnes. Ceux qui ont des énormes salaires ont de grandes responsabilités vis-à-vis de ceux qu'ils emploient normalement.
Et puis permettre du coup, oui, de faire vivre et de créer de l'emploi, etc.
Oui. Alors la question pourrait se poser d'un footballeur quand même.
Oui.
Un footballeur, il développe un talent, il cultive, mais alors là, c'est sans doute, à mon avis, c'est quelque chose... Bon, je parle sous couvert, il faudrait avoir quelqu'un pour contrôler. C'est un peu de la spéculation quand même, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que là, pour le coup, le salaire est bien au-dessus de la valeur du travail que ça représente.
En fait, le salaire est proportionnel à l'engouement que ça génère.
C'est vrai que...
C'est-à-dire que plus il y a de monde qui regarde, plus le foot a de l'argent, plus le foot a de l'argent, plus ils peuvent payer leurs joueurs, plus ils payent leurs joueurs, plus les joueurs jouent dans des grands clubs, plus les joueurs jouent dans des grands clubs. Plus les gens regardent et c'est
ouais.
C'est un système qui s'alimente un peu tout seul, il s'alimente de lui-même, mais après la question qu'on peut se poser c'est la question de la mesure, parce que forcément tout travail mérite salaire, mais encore faut-il arriver à trouver le juste milieu. Justement, on parlait aussi du juste salaire, Et parfois la question peut se poser, en fait, à quel moment est-ce que c'est trop, et de ce trop, qu'est-ce qu'on en fait aussi.
C'est peut-être, là c'est la, de questionner d'ailleurs un des ressorts qu'il y a derrière, qui est le libéralisme en fait. C'est-à-dire que quand vous mettez les gens en relation et en concurrence, c'est pour ça que les salaires de footballeurs augmentent aussi. C'est parce qu'ils mettent en concurrence les clubs, et que les clubs, pour pouvoir obtenir le meilleur, rajoutent un petit peu plus. Donc il y a une espèce de course à l'échalote.
Les joueurs jouent là où ils sont mieux payés.
Voilà, c'est ça. Sauf certains.
Sauf certains.
Justement, c'est ça qui est beau d'ailleurs pour quelques cas, de voir qu'au bout d'un moment, le vertige s'arrête. Même pour, du moins, que des footballeurs qui ont... du moins, voilà, ils vivent quand même au bout d'un moment pour le football, plus que pour l'argent qu'ils vont gagner. C'est pas vrai pour tout le monde, mais c'est tout l'enjeu de la vertu. Hein. Moi, c'est le grand... c'est la grande raison qui me motive notamment à faire cette conférence et à questionner, notamment questionner les étudiants souvent en école de commerce derrière. C'est je vais me motiver pour gagner de l'argent, pour avoir un travail. C'est derrière comment en faire usage vertueusement. D'une part, comment éviter le vice d'avidité, de cupidité, d'avarice, oui, tout à fait. Et comment cultiver justement, au contraire, les vertus. Alors, il y en a plusieurs. Il y a la vertu de savoir donner, et d'autres, et puis la vertu du détachement. Même la pauvreté, hein, elle a plusieurs sens, et un des sens qu'on peut donner à la pauvreté, c'est justement le sens d'une vertu. Il y a une forme de... Donc, qu'est-ce qu'une vertu, hein, encore une fois, c'est une forme d'habitude installée à poser des actes bons. Quel va être l'acte bon de la vertu de pauvreté? C'est justement le détachement des choses inutiles.
En plus, vous êtes plutôt bien placé pour en parler, parce que vous avez fait justement ce vœu de pauvreté, c'est un des trois vœux de religion, et justement ces vœux-là sont pris dans un but quand même d'une certaine imitation de notre Seigneur Jésus-Christ.
Et pour installer la vertu, et pour justement, je promets à Dieu de ce vœu de pauvreté, de manière à faire en sorte que toute ma vie, en tout cas quand il y a une question de relation au bien matériel, il y ait un acte de pauvreté qui puisse être fait, c'est-à-dire de détachement vis-à-vis des biens matériels. Et encore une fois, hein, des biens matériels, c'est-à-dire que ce n'est pas des choses mauvaises, c'est des choses bonnes. Oui. Le mot bien n'est pas galvaudé. C'est juste notre cœur a un rapport déréglé vis-à-vis de ces biens matériels. De même que le gourmand aime trop le gâteau au chocolat, l'avaricieux aime trop les biens matériels.
Oui, c'est sûr que...
Mais justement, enfin, nous, en tant que catholiques, dans un monde qui, quelquefois, est assez matérialiste, assez bourgeois, quelquefois, hein, faut pas se le cacher, comment, justement, concilier notre foi avec, justement, et justement, avec ne pas tomber justement dans l'avarice, avec l'argent qu'on pourrait recevoir, qu'on pourrait soit gagner, soit recevoir.
Première chose, lire l'évangile. La réflexion d'un professeur de morale qu'on a eu, qui est assez juste, c'est quand on compare les confessions et l'évangile, on est assez marqué par la disproportion. Dans les confessions, vous avez une très grande proportion d'aveux sur des péchés d'ordre de la sexualité, de la luxure, et assez peu sur le rapport à l'argent. Mais quand vous regardez l'évangile, c'est strictement l'inverse. C'est strictement l'inverse. Le Christ parle assez peu des péchés de luxure et et très explicitement, quasiment jamais. En revanche, les péchés liés à l'argent, la relation à l'argent, ça occupe mais des kilomètres et des kilomètres de lignes de l'Écriture, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, jusqu'à l'Apocalypse, la lettre à l'Église, les lettres à l'Église de l'Apocalypse sur celui qui est tiède, justement. Tu te crois riche, mais tu es pauvre. Va t'acheter un or au creuset. C'est-à-dire un or purifié au creuset, c'est-à-dire
par le feu.
Oui, c'est ça, et c'est-à-dire les vertus humaines, c'est-à-dire les richesses spirituelles qui t'ouvriront le royaume des cieux, les trésors du royaume des cieux.
Que le but, c'est d'amasser des biens, non pas dans ce monde, mais dans celui d'après aussi. Et oui, vous parlez de l'évangile, mais c'est vrai que quand on compare, Jésus n'a justement pas lapidé la femme adultère, mais au contraire est venu retourner les tables des marchands du temple et les a carrément fouettées. Donc c'est vrai qu'on a vraiment ce parallèle-là qui est assez flagrant, c'est vrai.
Oui, et puis avec des mots extrêmement durs, hein, y a dans les... on connaît souvent les béatitudes, et on connaît souvent la version en saint Matthieu des béatitudes. Donc c'est 8 affirmations du Christ heureux. Et ça commence par « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux ». Ça rassure souvent les gens parce qu'ils entendent « pauvres de cœur ». Alors, on cherche une interprétation, qu'est-ce que ça veut dire « pauvre de cœur » ? Il y a cette forme de détachement vis-à-vis des biens matériels, mais on peut en avoir quand même. Et quand on passe à Saint-Luc, Saint-Luc qui est l'évangile de la miséricorde, c'est-à-dire que dans Saint-Luc, vous avez la parabole du fils prodigue, vous avez des choses absolument splendides sur la miséricorde du Père envers les pécheurs. Et il y a une dureté vis-à-vis des riches, et la transposition des béatitudes en saint Luc, justement, il n'y en a plus 8, il n'y en a que 4, et c'est plus heureux les pauvres de cœur, c'est heureux les pauvres, car ouais. Le royaume des cieux est à eux. Et ensuite, il ne s'arrête pas aux 4 béatitudes, il y ajoute 4 malédictions, en parallèle, en symétrie, tout de suite après. Malheur à vous les riches, vous avez déjà votre récompense. C'est d'une... Et il y aurait des tas d'autres passages. J'ai été très marqué en relisant l'évangile de Saint-Luc et en me rendant compte à quel point, moi qui avais beaucoup entendu parler de l'accent mis sur la miséricorde dans l'évangile selon Saint-Luc, de comparer, de voir à quel point sur l'aspect de la pauvreté spirituelle, de la pauvreté, il est d'une sévérité tout à fait incroyable.
Oui, bah en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment justement dans les Écritures et même dans l'Évangile, surtout de voir qu'il y a vraiment une dimension qui est verticale et qu'on n'est pas du tout appelé à se concentrer sur les choses d'ici-bas, mais justement de passer notre vie aussi, qui est malgré tout courte et surtout passagère, de vraiment garder ça en conscience et de ne pas, en fait, entre guillemets, s'épuiser à amasser des choses qui vont mourir avec nous, et de plutôt, au contraire, s'efforcer dès le présent, enfin dès cette vie-là qu'on a ici, de préparer justement la vie éternelle et pas trop s'attarder sur ces choses qui sont bien vaines aussi, vanité des vanités, comme dirait Saint Paul.
Oui, et puis Saint Paul est même très sévère aussi, ça c'était des évangiles qu'on avait au mois de septembre, notamment sur ce sujet-là aussi, où j'ai été marqué aussi dans une lettre de Saint Paul de voir qu'il invite à prendre de la distance vis-à-vis des biens matériels, vis-à-vis de l'argent, en disant que derrière il y a un enjeu de foi. Que petit à petit, l'âme qui s'endort, et c'est souvent lié à ça d'ailleurs, le riche est souvent une âme endormie. Dans la lettre aux églises, par exemple, il y a cet aspect de réveillez-vous. Dans l'épître aux Saint-Jacques, de Saint-Jacques aussi, une épître qu'on lit assez peu, qu'on ne partage pas avec les protestants, ça pourrait être un sujet, parce que justement, les protestants qui ont les textes bibliques ont un rapport très différent à l'argent et au travail.
Bien sûr, oui.
Ça pourrait être un sujet aussi qu'on pourrait...
C'est parce qu'ils ont américain.
Effleurer. Non, c'est plus ancien que ça. Il y a l'idée assez ancienne que le Seigneur bénit celui qui a la foi, et il le bénit concrètement et réellement
par l'abondance,
en l'encourageant par la prospérité. Alors, c'est peut-être la caricature de la foi protestante, mais c'est quand même assez marquant. Il y a des thèses sur le fait que le protestantisme ait été particulièrement important pour la naissance du capitalisme et du capitalisme américain. Oui, en effet. Et c'est pas parce qu'ils sont américains, c'est plus qu'ils ont nourri la mentalité américaine du succès, justement. Et en Saint-Jacques, donc l'épisode, c'est pareil, extrêmement dur aussi. Il évoque ce passage où, dans une assemblée, vous allez avoir un riche et un pauvre qui vont arriver. Et bien sûr, vous allez vous approcher du riche et lui dire « Vas-y, prends la place d'honneur ». Et au pauvre, vous allez lui dire « Mets-toi sur mon escabeau à mes pieds ». Dans l'assemblée, et il décrit, en fait, c'est une espèce de description des premières assemblées, en reprenant les premiers chrétiens pour leur dire ne faites pas exception des personnes, ne jugez pas en fonction du vêtement qu'il peut avoir pour cela.
Oui, d'accord, très bien. On parle du coup de l'argent, mais il y a aussi la notion de travail qui est assez importante, parce que justement, voilà, on parle de travail de serre, etc., mais il y a des gens qui font le choix de travailler sans salaire. Et donc là, je prends un peu une direction. Tout à l'heure, on parlait des vœux de religion, mais parlons un peu plus aussi de la vie monastique, parce qu'il y a toute une dimension portée sur le travail qui est très importante ici, forcément, dans le monachisme occidental, notamment chez les bénédictins, avec le rite de Saint-Benoît, qui met un accent quand même très fort sur le travail manuel et le rôle qu'il a aussi dans la prière, parce qu'il va apporter un vrai équilibre entre les choses d'ici-bas, donc de la terre, qui sont très concrètes, mais qui vient aussi déjà alimenter la prière liturgique, mais qui vient aussi, le travail lui-même devient une prière.
Et, aura et labora.
Tout à fait.
Oui, avec cette idée que le travail fait notre dignité, j'avais, en accompagnant une association qui réintégrait des gens de la rue notamment, il y avait une famille arménienne, avec un père qui, tant qu'il n'avait pas ses papiers, ne pouvait pas travailler, puisque c'est interdit selon la loi française, et ça lui était extrêmement difficile de ne pas pouvoir travailler pour pouvoir subvenir aux biens de sa famille. Ça faisait partie de sa dignité. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Le travail n'est pas une malédiction en soi, c'est suite au péché originel, il est marqué par la peine.
C'est la difficulté du travail qui est une conséquence du péché originel.
C'est la peine, mais c'est dès avant, à partir du moment où Dieu a créé Adam et Ève, où il a créé les êtres humains, il leur a dit de travailler, d'œuvrer, de cultiver le jardin. Et donc il y a une part, et c'est la vie monastique a cette part à la fois pleinement humaine, de dignité, de savoir travailler, de savoir cultiver le travail. À la fois, il y a l'aspect pénitentiel et ascétique aussi, lié à la vie monastique, c'est-à-dire qu'ils ont conscience de la pénibilité du travail et on devient moine aussi, par réparation, pour une par réparation, pas ses propres péchés, mais des péchés du monde.
Surtout, oui.
Donc il y a ces deux aspects-là dans le travail observé par les moines. Je reviens sur une chose que vous avez dit au tout début, parce que je voudrais faire l'avocat du diable, du moins. J'ai pas d'opposant là, un petit peu. Moi, j'ai pas Philippe, j'ai pas Hugo, comme j'aurai pour la conférence du 4 décembre à l'Institut catholique. Il y en a qui travaillent sans salaire. Oui, justement, c'est le cas très particulier des moines.
Eux, ils gagnent leur salaire de là-haut.
ils font aussi ce que dit saint Paul, d'une certaine manière, qu'on a entendu tout récemment à la messe de dimanche. Hein. Celui qui ne veut pas travailler, c'est celui qui ne mange pas non plus. Et l'inverse est vrai, c'est-à-dire qu'un travail, c'était la question de départ qui est tout à fait juste, un travail mérite un salaire. Et qu'on est particulièrement pro dans l'Église, d'ailleurs, pour savoir faire appel à la générosité, à la bonne volonté des gens, et parfois un petit peu au-delà de ce qui est juste, de ce qu'on leur doit véritablement. Oui, certes, la charité est une vertu, c'est la plus haute des vertus chrétiennes, et il faut l'encourager. Après, si c'est la plus haute des vertus chrétiennes, ça veut dire qu'il y a plein de marches avant, et qu'il ne faut pas trop sauter des marches, et qu'il ne faut pas exploiter les gens, sous couvert de charité chrétienne. Faut être assez vigilant sur ça, pour pas tomber dans une forme d'hypocrisie, justement, qui est tout à fait de laquelle faudrait se méfier aussi. Et c'est justement pour continuer à faire un petit peu l'aspect le christianisme n'a pas qu'un rapport l'argent n'est pas le mal en soi. Il faut quand même aussi, déjà, que le christianisme, le Christ lui-même, s'entoure de personnes assez fortunées. J'ai beaucoup travaillé Marie-Madeleine, parce que j'ai vécu un petit peu à la Sainte-Baume, donc dans ce sanctuaire à Sainte-Marie-Madeleine, qui est entre Aix-en-Provence et Marseille, parce qu'on dit que la tradition provençale dit que Marie-Madeleine est venue jusque là-bas. Et Marie-Madeleine, dans un tout petit verset de Saint-Luc très très instructif, est mentionnée à côté Suzanne, femme de l'intendant d'Hérode, donc quand même, pas rien, et il est mentionné ensuite qu'elles aidaient le Seigneur de ses biens, de leurs biens. Et quand on voit le Seigneur passer à Béthanie, la maison de Béthanie a l'air, alors certes Marthe est maîtresse de maison et elle fait le service, mais il y a quelque chose qui laisse penser qu'il y a quand même un matelas, si je puis dire, de Marthe et Marie. Donc, le Seigneur s'entoure de personnes fortunées. Quand on lit le Saint Paul, c'est pareil. Dans les salutations qu'il fait, dans les relations qu'il a, c'est pareil pour Saint Pierre, il y a aussi des gens qui ont une véritable position, stature sociale, et qui sont pleinement dans l'Église. Et en fait, on traverse toute l'histoire de l'Église. Il y aura toujours eu, comment dire, une capacité à parler à tous,
bien sûr,
aux pauvres comme aux riches. Ouais. On ne dit pas la même chose aux pauvres et aux riches.
Bien sûr. Ce qui est intéressant, du coup, pour revenir sur Marie-Madeleine, c'est que justement, on a aussi du coup, ce moment où elle utilise du parfum précieux et oui, le répand sur les pieds du Christ. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça montre aussi qu'on peut faire un usage de ces biens qui soit bon et qui soit du coup, bah, justement, au service aussi du bien. Et dans ce cas-là, peut-être d'une certaine manière aussi contribuer à déjà à la beauté de l'Église par des choses très concrètes, mais aussi ça peut permettre de développer la vertu justement en, par des actes concrets et par des choses matérielles aussi de faire des, bah, du coup de faire le bien et de toujours pointer aussi vers les choses qui nous dépassent.
Même si c'est très délicat parce qu'elle elle verse un art extrêmement précieux, c'est quasiment l'équivalent d'une année de salaire. Ouais. C'est absolument oui, énorme. Donc, et alors après, en effet, c'est, vous avez raison sur un fait, c'est, ça peut être une véritable inspiration pour cette vertu de munificence, de savoir donner avec beaucoup de largesse sur certains domaines, et de fait de nourrir un petit peu ceux qui ont gagné de l'argent, de savoir faire ce genre de dons. Alors, qui veulent dire quoi derrière, hein, qui veulent un peu rappeler ce qu'on a fêté dimanche, la royauté du Christ, hein, que l'argent n'est pas notre maître. Parce que pourquoi on est attaché à l'argent? Ça aussi, on peut poser la question, et c'est une vraie question.
Parce qu'il nous permet de vivre.
Oui, un, par nécessité, mais aussi par sécurité. C'est-à-dire qu'en plus, il nous apporte une forme de sécurité.
Et un statut.
Au jour le jour. Et en plus, il y a le statut. Alors, le statut, c'est ambivalent parce que justement, Enzo me posait la question de cette espèce de rapport à une sociologie bourgeoise qu'on a en France et puis en particulier dans le christianisme, qui peut être autant une forme d'attraction qu'une forme de répulsion vis-à-vis du christianisme. Vous savez, à Toulouse, il y a eu, à la fin de sa vie, est venu Jacques Maritain, qui est un philosophe du XXe siècle qui s'est converti. Mais justement, il y a eu un frein à sa conversion au tout début. C'était qu'il n'avait pas envie de devenir un bourgeois catholique. Et que c'était vraiment rédhibitoire pour lui. Il a fallu vraiment qu'il découvre Léon Blois et sa manière très, très radicale de parler. Et Léon Blois n'est absolument pas compromis justement avec cette sociologie bourgeoise. Du moins, il est très sévère avec elle, dans un ton très prophétique, pour justement alimenter les consciences, hein, de manière assez chouette. Et ça leur ouvre les portes de l'Église, pleinement.
D'ailleurs, Jacques Maritain était, il me semble, derrière chez vous, au couvent.
Derrière le couvent, oui, tout à fait. Il a terminé chez les petits frères de Jésus, pour être tout à fait précis, dans cette spiritualité de Charles de Foucault.
Ça va, il a échappé à la bourgeoisie catholique, alors.
De très grande pauvreté, c'est ça. Et oui, j'ai encore connu des frères qui célébraient la messe, et ils l'avaient comme servant de messe.
Ah, magnifique.
À 70 ans, lui qui avait été ambassadeur de France quand même pour le général de Gaulle. ambassadeur de France au Vatican pour le général de Gaulle. Ouais. C'était pas... Et là, pour le coup, il avait été obligé d'acheter des bijoux pour Aïssa, pour son épouse à l'époque. C'est l'alliage des deux. Voilà, le christianisme n'a pas un rapport diabolisant non plus complètement avec l'argent. Il faut en avoir conscience et faut savoir être dans la justice aussi. Vis-à-vis de ce qu'on peut donner, qu'on ait le rôle de... À cause de ce qui est marqué dans l'Évangile, et à cause aussi du fait que, si vous voulez, l'argent est un anesthésiant, c'est un sécurisant, c'est un peu... Ça pourrait être comparé à un médicament, si vous voulez, parce qu'il donne quelque chose de nécessaire, la santé nécessaire. Si on en prend trop, il devient anesthésiant. Il vous assomme. Ouais, et du coup, vous manquez de réactivité. Pourquoi ? Vous somnolez pour faire les meilleurs actes, pour les actes les meilleurs. Et donc, c'est ça sur lequel bah, le Christ passe derrière et fait cet office un petit peu de réveil des consciences pour éviter qu'elles s'endorment.
À Saint-Sulpice, il y a quelques semaines, ce sont des amis qui m'ont rapporté ça. Donc Saint-Sulpice, qui est une église à Paris, et donc notamment le dimanche, une messe des étudiants a lieu, où donc pas forcément le clergé, mais des personnes ont incité les étudiants présents à donner pour le denier de l'église. Aujourd'hui, quand on connaît la précarité étudiante, quand on connaît
les difficultés que certains peuvent avoir. Alors bon, effectivement, on parle de Paris quelquefois, donc on sait qu'il y a des personnes qui sont plutôt à l'aise financièrement, qui sont présents et qui fréquentent Saint-Sulpice. Mais si on le met par exemple à Toulouse avec la paroisse étudiante, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en précarité. Et donc, où se mettre les étudiants en tant que jeunes adultes, en tant que acteurs de l'Église, quant à par exemple cette contribution pour le denier?
D'autant que pour des étudiants, parfois, c'est souvent pas leur argent. C'est souvent l'argent de leurs parents pour une bonne part. Ensuite, quand on est prédicateur, c'est extrêmement délicat parce que généralement, on dit quelque chose, on fait une invitation, genre on fait une invitation à participer au denier du culte, et c'est évidemment ceux qui ont le moins d'argent qui le font, oui, qui l'entendent. On est souvent très marqué de voir qu'on a voulu dire quelque chose en ciblant une forme de public, et que c'est vraiment ceux qui n'auraient pas dû l'entendre, qui le font. Ce qui est à la fois, du moins, ce qui est, c'est à double tranchant, du moins, c'est à la fois, on est très dérangé, et à la fois, c'est d'une beauté incroyable, du moins, c'est l'obole de la veuve, c'est vraiment cette femme qui a deux piécettes qui sont l'équivalent de 2 centimes, et quand elle les met, c'est pas celui qui a mis 2 centimes à la quête, parce qu'il avait que ça dans son porte-monnaie, mais qui tout de suite, en sortant de l'église, va s'acheter...
3 cafés.
Ouais, 3 cafés au canton. 3 cafés, justement. Ou 3 bières chez tonton, ou 3 cafés sur la place Saint-Sulpice, c'est-à-dire pas au prix d'un café normal.
Voilà, et plus cher que ce qu'il a donné la quête.
Et autrement plus cher. Donc la veuve de l'évangile, là, elle met vraiment 2 piécettes qui sont toute sa subsistance. Et vraiment, elle s'y met, elle n'a plus rien pour manger après. Ça fonctionne comme ça, l'esprit de pauvreté, l'espèce de détachement et du coup de confiance en la providence. Vous voyez la relation entre ma relation à l'argent et parfois ma relation à Dieu comme ma providence, comme celui qui veille sur moi envers et contre tout, et parfois contre la réalité matérielle, ce qui est assez impressionnant.
Oui, c'est vrai, parce que on revient toujours à l'évangile, hein, où le Seigneur nous dit à l'image comme les oiseaux qui ne se soucient pas de manger, de ce qu'ils mangent le lendemain. En fait, de la même manière, nous aussi, on doit vraiment avoir cette confiance en la providence. Et je pense que justement, là où parfois on a du mal, c'est du coup ce détachement qui parfois est vraiment dur, où en fait on a du mal un peu à faire ce saut-là de confiance un peu, et cet acte d'abandon qui parfois est si dur à faire. En fait, et je pense que c'est quelque chose qui peut faire peur aussi.
Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Vous voyez, les vœux religieux ne sont pas faits pour tout le monde, on en a conscience, hein, c'est vraiment, ça c'est très clair dans les évangiles et c'est saint Paul. Donc le vœu de pauvreté, c'est pareil, le vœu de pauvreté, les conseils évangéliques en revanche, c'est donné à tout le monde, mais le vœu, c'est pas fait pour tout le monde. L'abandon à la providence, de temps en temps, oui, en effet, on mesure à quel point on est attaché au bien ou à quel point on arrive à se détacher. Ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est une loi générale absolue sur laquelle il faut... Parce qu'il y a des passages de l'évangile, ne serait-ce que la dernière fois qu'on avait discuté, justement, Philippe disait à très, très juste titre hein, que le Seigneur avait une connaissance extrêmement juste des réalités du travail, des réalités de l'agriculture notamment, du travail agricole notamment. Il y a aussi cet évangile d'appeler à se faire des amis avec, alors, le malhonnête argent, dit le Seigneur, mais de se faire des amis, c'est-à-dire de savoir vraiment être intelligent avec, donc de savoir quand même de nous pousser aussi, parfois, et dans l'Église, c'est très vrai, on est poussé à l'excellence dans le travail. Dans l'Église, c'est une vraie réalité que...
C'est un lieu de sanctification.
C'est un lieu de sanctification, justement, où on doit pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Si on donne le meilleur de nous-mêmes, ça veut dire, on peut le donner aussi dans le lieu où on travaille. Véritablement, on va recevoir notre salaire, ce qui peut nous amener à avoir les salaires en conséquence. Donc il y a cette réalité-là aussi qu'on ne peut pas freiner. Et je crois que ce n'est pas juste de la freiner. Dis-moi, si l'appel à la pauvreté, ça c'est très vrai, comme conséquence, ça entraîne la paresse.
Oui, non, oui, ça serait.
Ou l'irresponsabilité. Justement, je suis pauvre et comme ça, j'ai pas de responsabilité, c'est beaucoup moins fatigant. Non, c'est pas juste, c'est profondément injuste même.
Oui, ce serait une vraie fuite.
Oui, devant ce que le Seigneur nous demande, c'est-à-dire de cultiver le jardin. Et que justement, quand on va développer ses talents, par le travail qu'on aura fait, en essayant de nourrir, d'aller au plus haut de ce que je peux faire. Chacun selon les talents qu'il a reçus. Et l'évangile des talents, il y a pour ça. Ouais. Hein, dis-moi, l'évangile des talents, il faut... Alors, c'est sûr, on peut le prendre au niveau purement spirituel, Mais il y a sans doute plus large que ça. Hein. Il y a quand même un aspect de donner le meilleur de nous-mêmes, y compris dans son travail, de se sanctifier aussi là, et du coup, d'avoir des responsabilités vis-à-vis des autres. On va rayonner parce que par le bien qu'on aura fait et le travail bien fait qu'on aura fait. Tout ce qui est bon rayonne hein, et parle de Jésus d'une certaine manière, de Dieu. Les gens finissent parfois par faire une relation entre les bonnes choses qu'on peut produire et en fait l'évangile qui nous nourrit.
Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que justement, en fait, quand on sanctifie le travail et quand on donne vraiment cette impulsion-là de tourner notre travail vers le Seigneur, en fait, souvent, ça prend quelque chose qui, en soi, peut être très banal et très, très simple. Mais en apportant là cette touche en plus, ça va vraiment tout changer parce que déjà, ça donne un sens à ce qu'on fait. Et puis aussi, et surtout, ça peut contribuer non seulement à notre bien et à notre sanctification, mais aussi à celle des autres. Parce que, par exemple, pour un travail pénible qu'on pourrait offrir aux âmes en peine ou que sais-je, c'est toujours une occasion en fait, de pouvoir faire le bien en faisant des choses qui sont parfois simples, hein, pour des travaux manuels ou même pour des choses plus importantes, mais de toujours en fait, avoir cette présence d'esprit de se dire voilà, j'offre mon travail ou je mets aussi mon travail sous le regard de Dieu. Parce que forcément, ça peut aussi changer notre manière de travailler, de savoir que, qu'on fait ça aussi pas que pour nous.
C'est absolument essentiel. C'est absolument essentiel, du moins. Pour toute chose, de toute façon, qu'on soit nourri par la charité, on s'aime soi-même et c'est très bien. Mais l'orgueil est aussi un péché.
Oui, tout à fait, c'est le plus grand. Oui,
l'orgueil et la vanité sont aussi des péchés. On n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais c'est aussi, ça fait aussi partie de ceux qui sont très peu abordés très souvent. Mais je fais quelque chose. Je fais aussi quelque chose pour les autres, donc c'est vraiment important. Un frère, un prédicateur disait, la pauvreté a un coût, c'est-à-dire qu'elle va reposer sur d'autres. Et il le disait en étant dominicain aussi lui-même, donc en faisant vœu de pauvreté et en ayant conscience que son vœu de pauvreté va dépendre de ceux qui nous auront donné, à qui on aura demandé de l'argent et qui nous auront donné. Et en fait, on pourrait même généraliser en disant toute pauvreté a un coût. C'est sûr, c'est peut-être parfois plus sympa de donner à un frère les frères au Moyen-Âge qui construisent les Jacobins, alors dans les années 50, qui construisent un couvent en béton, et ensuite qui vont prêcher surtout. L'essentiel, c'est pas les constructions qu'on a pu faire, mais c'est la parole qu'on a pu faire, le don des sacrements, ce genre de choses. Mais la pauvreté de quelqu'un qui l'a subi aussi a un coût. C'est-à-dire qu'il a besoin de ceux qui sont autour de lui pour prendre soin de lui, pour l'aider spirituellement, parfois humainement, et puis matériellement aussi. Et ça repose toujours sur quelqu'un. Il donnait l'image de justement Marthe et Marie qui reçoivent chez eux le Seigneur, donc qui aident le Seigneur de ses biens. Donc le Seigneur fait ses grands discours sur l'appel à la pauvreté, etc. Et il imagine en disant, Marthe et Marie, Marthe surtout en train de reprendre en disant, bon vous êtes bien gentils, mais enfin, s'il vous plaît soyez bien élevés quand vous venez chez moi. Je vous nourris. Et ce qui est vrai, du moins, elle concourt comme ça. Et c'est parce que c'est là où on voit que c'est juste, hein, quand il y a la charité quelque part. C'est-à-dire quand on voit que un amour de Dieu et du prochain nous met en relation les uns avec les autres, pour dépendre notamment des uns des autres, pour nous éloigner, pour nous prémunir, alors de l'avarice, oui, mais aussi de l'orgueil, qui est la racine de tous les péchés, qui nous coupe des autres et de Dieu. Parce que dans l'orgueil, vous savez, on aime sa propre excellence, donc on a besoin de personne.
Dans l'orgueil, on aime son argent.
Et, entre autres. Et souvent, pour ne pas avoir besoin des autres, je vais avoir besoin d'argent. Et comme j'ai de l'argent, après, je n'ai plus besoin des autres. Je me suffis à moi-même. Voire, pour finir de m'aimer moi-même, je peux le donner.
Ça, c'est la pire chose, ça. Ah là, c'est bien, j'ai fait un acte, j'étais pas orgueilleux, et bam, là, t'es orgueilleux.
Alors non, c'est pas ça, c'est plutôt, j'ai suffi pour m'aimer moi-même, non, c'est celui qui n'a pas conscience de l'orgueil, vous savez, l'orgueil est subtil, il ne se voit peu. C'est pour ça qu'il est peu confessé, d'ailleurs, c'est difficile de le voir.
Faut qu'on le voit en nous-mêmes.
Ouais, on le voit plus dans les autres qu'en soi-même, oui. Généralement. Et donc celui qui ne le voit pas, au bout d'un moment, il ne dépend pas des autres, puis il finit par gagner de l'argent, et pour finir de s'aimer lui-même, il finit par donner, mais de manière condescendante en fait, de manière orgueilleuse. Et là aussi, ça appelle un petit examen.
Je suis trop fort, j'ai donné mon argent alors que les autres ils le font pas.
Oui.
Paf.
Et voilà, le générique qui part tout seul, et puis voilà, puis,
oui, micro,
puis
le micro, micro,
voilà, le micro aussi qui s'allume pas. Enfin voilà, c'est les jeux du direct sur Soif d'autre chose, et Louis-Marie,
c'est
pour
moi.
Ta deuxième chronique de la soirée, on parle du bienheureux Vladimir Guica.
C'est ça, une figure pas très connue, et vous verrez, il a des existences si denses qu'elles ressemblent à plusieurs vies en une seule. Il était prêtre et mendiant, diplomate et confesseur, orthodoxe devenu catholique, laïque devenu prêtre à 50 ans pour le diocèse de Paris. Voyageur des cinq continents et prisonnier d'une cellule roumaine. Aujourd'hui, nous parlons du bienheureux Vladimir Guica, un homme que le XXe siècle a brassé de tous ses orages et qui n'a jamais cessé de brûler. L'Église l'a béatifié le 31 août 2013, sa fête est fixée au 16 mai, jour anniversaire de sa mort, et pourtant il reste trop méconnu, alors aujourd'hui prenons le temps de le rencontrer. Vladimir Guica naît le 21 décembre 1873 à Constantinople, un jour de Noël, comme si le ciel voulut signer d'emblée quelque chose. Son père représente la Roumanie auprès de l'Empire ottoman, sa famille est de sang princier, elle a régné sur la Moldavie et la Valachie. On aurait pu croire que ce fils d'ambassadeur deviendrait à son tour diplomate et qu'il mènerait une vie de salon et de protocole, mais rien de tout cela. Il arrive en France à l'âge de 5 ans et c'est à Toulouse qu'il découvre l'Église catholique. Quelque chose se dépose en lui, lentement, au fil des années, puis vient Rome et le tournant décisif. En 1902, après un long cheminement spirituel, il fait son entrée officielle dans l'Église catholique, auparavant du semi-orthodoxe. Pour lui, incite-t-il, il ne s'agit pas d'une conversion, car il était déjà, dit-il, catholique d'esprit et de cœur. Il aurait voulu devenir prêtre aussitôt, mais sa mère s'inquiète, s'en ouvre même au pape Pie X. Vladimir obéit, il restera laïque pendant encore 20 ans, mais quel genre de laïque ? Avant d'être ordonné, Vladimir Gicka invente quelque chose que l'on pourrait appeler une spiritualité du concret. Il pratique ce qu'on appelle la théologie du besoin. Tout besoin rencontré sur notre route est une visite de Dieu. Ce n'est pas une formule creuse, c'est la règle de vie d'un homme qui court d'un hôpital à l'autre, qui s'agenouille auprès des mourants, qui introduit les filles de la charité en Roumanie en 1906 et se met au service des plus pauvres et des plus blessés de la vie. Il se dévoue sans compter à leur côté, à tel point que l'on surnomme Sœur Vladimir, ce prince d'ancien royal que l'on surnomme Sœur. Il a là quelque chose d'évangélique qui fait sourire et qui émeut. À Paris, il fréquente les grands esprits de son temps, il est proche de Jacques Maritain, d'Emmanuel Mounier et de Paul Claudel, mais il vit aussi un temps dans une baraque à Villejuif, près des prolétaires de la banlieue rouge. Des papes aux sans-abri, des têtes couronnées aux sans-garde, Vladimir Gicka ne choisit pas où il va, mais il va partout où il y a un être humain. Enfin, en 1923, il franchit le seuil, le cardinal Dubois, à l'époque archevêque de Paris, l'ordonne prêtre pour le diocèse de Paris. Il lui accorde une autorisation rare, celle de célébrer la messe selon les deux rites de l'Église, en tout cas les deux principaux, le rite latin et le rite byzantin. Il a 50 ans. D'autres l'auraient considéré que c'était trop tard, mais pour lui c'était seulement le commencement. À l'aise dans tous les milieux, il côtoie le pape et les têtes couronnées, les intellectuels et les artistes, mais il va aussi à la rencontre des âmes les plus éprouvées, les plus anxieuses, les plus révoltées. Au confessionnal, il avait un sens vif du péché, bien que plus d'une fois, comme le curé d'Ars, devant l'aveu des fautes les plus lourdes, des pécheurs l'entendirent pleurer. Il parcourt le monde, il enseigne, il prie, surtout la nuit. Sa vie spirituelle est centrée sur la présence du Christ rédempteur dans l'Eucharistie. Il laisse des paroles qui brûlent encore, en voici quelques-unes. « Va chercher celui qui n'osait t'attendre, donne à qui ne te demande pas, aime qui te repousse. » Ou encore, « Qui se dépouille pour autrui se revêt du Christ. » Ce ne sont pas des aphorismes de salon, ce sont les mots d'un homme qui les a vécus jusqu'au bout. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, Vladimir Gicka est en Roumanie. La guerre mondiale le surprend dans une Roumanie soumise aux forces communistes. Beaucoup fuient, mais lui reste. À Bucarest, il devient le catalyseur de l'église gréco-catholique, en proie à la pire des persécutions. Il sait que c'est un risque, il choisit de rester quand même. Le don de soi comme abandon confiant à la grâce lui fait reconcevoir le martyr comme le témoignage suprême de l'amour. Il est jeté en prison à l'âge de 80 ans, à cause de sa foi catholique et de ses œuvres missionnaires. 80 ans, ce vieillard à la silhouette frêle, chevelure et barbe blanche, les yeux très doux, la tête un peu penchée en avant, est traité comme un ami de l'État. Le 16 mai 1954, après 20 ans de vie de laïc missionnaire et 30 ans de sacerdoce, il donne sa vie en martyr de la foi dans une prison de Bucarest. Il meurt épuisé sous le regard admiratif et compatissant de ses compagnons de prison, dans une oblation silencieuse de sa vie. Vladimir Gicka est un précurseur de l'œcuménisme moderne. Situé à la croisée des mondes orientaux et latins, né orthodoxe puis prêtre catholique, célébrant selon les deux rites, il a vécu dans sa propre chair l'unité des chrétiens comme une vocation et non comme une utopie. Mais ce qui touche le plus, c'est cette formule qu'on lui reconnut ceux qui l'ont connu, vivre extraordinairement les choses ordinaires de la vie chrétienne. Pas des exploits, pas d'héroïsme affiché, juste aimer toujours, jusqu'au bout, jusqu'en prison et jusqu'à la mort. Et pour continuer dans ce thème-là, on vous propose d'écouter ce qu'on appelle le Trisagion, qui est une pièce de la liturgie byzantine, qui est l'équivalent du Sanctus pour nous, la triple acclamation du Dieu trois fois saint.
Eleison in Choisir ma mort aussi. Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie et d'autres en plein soleil. Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans un lit, tranquille dans leur sommeil. Moi je veux mourir sur scène devant les projecteurs. Choisis plutôt un soir de gala si tu veux danser avec moi. Ma vie a brûlé sous trop de lumière. Je ne peux pas partir dans l'ombre. Moi je veux mourir fusillé de laser devant une salle comble. Moi je veux mourir sur scène devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert, tout en couleur. Mourir sans la moindre peine au dernier rendez-vous. Moi je veux mourir sur scène en chantant jusqu'au bout.
Dalida avec Mourir sur scène sur Radio Présence, c'est déjà la fin de notre émission, mais pas d'inquiétude, on se retrouve la semaine prochaine. Ah bah oui, mais Dalida, oui, qui parle en même temps que je parle, mais c'est comme ça. C'est les joies du direct sur Radio Présence que je disais, donc on se retrouve. Ouais, non, mais c'est n'importe quoi. Plus ça va, plus c'est la fin de saison, plus c'est n'importe quoi ici, dans Sauf d'autres choses. On se retrouve bien sûr lundi en direct à 19h pour vous accompagner dans ce début de semaine. Quant à moi, je vous retrouve demain pour Présence matin de 7h à 9h. Très bonne soirée dans Radio Présence. Tout de suite, des clés pour vivre avec Nathalie Cardon et à 21h la rédaction de RCF Notre-Dame avec Écoute dans la nuit. Très bonne soirée.
C'était Soif d'autre chose, une émission présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse.